Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Rachel a 29 ans, elle vit dans l'Isère, seule avec ses trois jeunes enfants. Son histoire a fait l'objet d'un documentaire de Marion Angelo Santo diffusé sur LCP. Car étrangement, les trois enfants de Rachel présentent des troubles du comportement, des crises d'angoisse, des automutilations ou encore des difficultés alimentaires. Rachel entreprend naturellement de faire une série de tests et l'un des médecins qu'elle rencontre fait l'hypothèse que ses enfants sont autistes, mais sans diagnostic officiel. C'est alors que les services de protection de l'enfance reçoivent un appel anonyme qui dénonce Rachel comme dangereuse pour ses enfants. Elle est également accusée d'inventer à ses enfants des troubles fictifs pour toucher des allocations de handicap. Puis elle est convoquée au tribunal de Grenoble, qui refuse de reconnaître le handicap des enfants et accuse désormais Rachel d'être seule responsable de leurs troubles. Une expertise psychiatrique conclut qu'elle souffre d'un syndrome de Munchausen par procuration, ainsi que d'un syndrome d'aliénation parentale. Décision est prise par le juge de placer les enfants de Rachel en famille d'accueil. Un mois et demi plus tard, 142 associations de parents d'enfants autistes dénoncent une erreur judiciaire et font pression pour que les enfants de Rachel soient diagnostiqués. En septembre 2015, les diagnostics d'autisme pour deux enfants et d'hyperactivité pour le troisième sont effectivement posés. La décision de placement sera pourtant prolongée pendant encore 3 ans, au motif qu'un retour à la maison entraînerait des effets néfastes sur les enfants. Selon le collectif Autisme, 67% des parents dont les enfants ont été placés ou menacés de placement déclarent avoir subi des pressions injustifiées, avoir été accusés d'inventer ou d'exagérer les troubles de leurs enfants. En 2015, l'État français a d'ailleurs été condamné à verser 240 000 euros à des familles d'enfants autistes pour prise en charge non adaptée et préjudice moral. Il faut dire que l'autisme et ses causes sont encore en partie méconnues, que plusieurs approches se font face, parfois violemment, et que les médecins et professionnels de l'enfance sont peu ou pas formés pour appréhender ce handicap. Tout de suite donc dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de parents d'enfants autistes et leur relation avec les services sociaux, de Nantes à Nancy, par Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis différent. Enfin, ça se voit pas parce que c'est au niveau du cerveau. Et quand on me connaît bien, bah ça se voit. Sur certains points. Par exemple, j'ai du mal à me faire des amis. J'ai beaucoup de mal avec le bruit. Donc je suis toujours obligée d'avoir des bouches-oreilles sur moi. Au moins des bouches-oreilles, sinon des casques de chantier, des choses comme ça. Les lumières aussi, des fois ça me dérange. Et donc, des fois c'est bien que je puisse par exemple baisser un peu l'intensité, ce que je peux faire dans ma chambre. Et puis j'ai aussi un très gros problème avec l'angoisse. Je n'arrive pas bien du tout à supporter l'angoisse. Aussi, les autistes supérieurs, enfin, souvent, ils ont une passion pour quelque chose, enfin, une tocade, on va dire. Et moi, c'est pour les robots.
J'ai 45 ans, j'ai deux enfants, j'ai Rémi, qui a bientôt 12 ans, que j'ai eu quand j'en avais 35, et j'ai Gabriel, 2 ans et demi, avec mon deuxième mari. Rémi, c'est un petit garçon qui a toujours été étrange, qui était très très déroutant, parce qu'il avait l'air à la fois excessivement intelligent, qui parlait très très bien. Par contre, cet enfant-là, qui était si intelligent, qui parlait si bien, comme un petit adulte, on n'arrivait pas à lui apprendre à nouer ses lacets. Ça a été très compliqué de lui apprendre à lire. Donc il est allé voir une première pédopsychiatre, il avait 4 ans. Elle a dit que tout allait bien, ou que c'était parce que je divorçais, ou parce que je sais pas quoi. Ça avait pas beaucoup de sens, parce qu'on était séparés depuis déjà plusieurs années, en fait. Bon, bref. Et puis un autre, 5 ans et demi, il a dit qu'il était précoce, et il m'a dit de lui faire faire de la musique. J'ai fait. Il fait du violoncelle, très bien d'ailleurs. Une autre, spécialisée dans les enfants précoces, qui m'a dit « Oh, mais madame, vous savez, avec Internet, maintenant les enfants sont tous bizarres, ils sont tous différents, faites-lui faire de la cuisine, ça lui apprendra la patience. » Donc il a vu des professionnels. Et puis il y a 2 ans de ça, il part en colonie de vacances, en Autriche, en colonie de ski exactement, et le directeur m'appelle au bout de presque une semaine, il a voulu sauter par la fenêtre du 2e étage. Le Le directeur de la colo m'appelle et il m'engueule. Et il me dit « Madame, vous n'ignorez pas que votre fils est quand même spécial. Il a un comportement insupportable avec les autres. » Et ensuite, il se demande pourquoi les autres lui en veulent. Il s'est bagarré avec un autre qui était agité aussi. L'autre a failli l'étrangler. Rémi a failli sauter par la fenêtre. On l'a retenu de justesse. C'est tout de même pas possible. Un enfant comme ça, il est mal élevé. L'enfant revient. Il est très très bizarre en fait. Il est en crise anxieuse. On l'amène à l'hôpital. Il l'hospitalise tout de suite. Il est interné. Et au bout d'une semaine, on dit « Mais enfin, madame, il est autiste, c'est tout de même évident. » C'était tellement évident que personne ne l'a vu pendant presque 10 ans. Ça fait déjà 15 jours qu'il est là. Il est sortant, l'enfant. Il va sortir. Et avant de sortir de pédopsychiatrie, on fait des permissions. Et donc, la jeune chef de clinique qui a posé le diagnostic dit « On va faire une permission, il va aller passer une nuit chez son père et une nuit chez vous. » Et là, je dis « Ça, c'est pas possible parce que chez son père, il ne peut plus y aller depuis 8 mois. Il pique des crises d'angoisse. » 8 mois auparavant, son père me l'avait amené parce que Rémi ne pouvait plus y aller. C'est-à-dire qu'avant d'aller chez son père, Rémi, il faisait des cauchemars, il faisait pipi au lit à 9 ans et demi, et puis il pleurait. Et donc je raconte ça à cette fameuse pédopsychiatre, et plutôt que de se dire, bah voilà, c'est juste des parents qui n'avaient pas de diagnostic, qui comprenaient pas pourquoi le gosse avait des troubles du comportement, et qui s'engueulent, mais on va calmer le jeu, et puis voilà, elle dit, moi je suis pas assistante sociale, j'ai un jugement de garde alternée, cet enfant ira une nuit chez son père, point c'est tout. Le père dit, et il écrit, vous savez, je me sens démunie, j'ai pas les billes pour le comprendre, je questionne ma capacité à l'accueillir, ça se passe pas bien chez moi. Il le dit. Et là, elle l'oblige. Elle dit, moi je suis pas assistante sociale, c'est bizarre cette histoire. Je rédige une information préoccupante à la cellule de signalement des enfants en danger. Alors c'est la CEMA, c'est l'ancienne DAS, hein. C'est le prélude au signalement judiciaire. Et elle écrit son information préoccupante en disant, Rémi semble pris dans un conflit de loyauté qui accentue largement ses crises d'angoisse, ce qui est dommageable parce que c'est un enfant extrêmement anxieux. Bah oui, mais parce qu'il est autiste, quoi. De plus, le père se dit démuni et questionne sa capacité. Donc elle met les deux questions, elle envoie ça à la CEMA, et elle impose une nuit chez son père, une nuit chez moi. Il va passer une nuit chez son père, et le lendemain, Rémi fait ce qu'il a jamais fait, il essaye de se tuer. Il se tape la tête dans les murs, il prend les objets pour se frapper, il essaie de sauter par les fenêtres, c'est l'enfer. Et c'est jamais arrivé. Une crise comme ça n'est jamais arrivée. Je suis obligée de le ramener en urgence en pédopsychiatrie, je dis à la pédopsie, mais vous êtes pas bien. On vous a dit qu'il n'y allait plus parce qu'il ne pouvait pas y aller. Le père ne voulait pas l'accueillir, l'enfant ne voulait pas y aller. Pourquoi vous avez imposé ça? Vous êtes pas bien, il a jamais fait une crise pareille. Et là, elle me dit, oh, dites-vous, je vais renforcer l'information préoccupante. En expliquant qu'il y a grande urgence, parce que l'enfant est dans un conflit de loyauté exacerbé par la mère. Et c'est comme ça que ça démarre. Au bout d'un mois de pédopsychiatrie, il voulait mourir pour de bon. Il voulait se tuer. Quand j'allais le voir, c'était terrible. Il se roulait en boule dans la valise et il me disait « Maman, s'il te plaît, emmène-moi. S'il te plaît, je t'en supplie, emmène-moi. » Et je ne pouvais plus l'emmener. Parce que le problème, c'est qu'on était signalés. Et si je l'avais sorti de force, c'était un défaut de soin. Au bout de 5 jours, le grand patron est rentré de congrès. Et il l'a fait sortir le lendemain. On a récupéré à la maison un enfant suicidaire qui regardait les couteaux dans la cuisine avec intérêt. Et en plus, au bout de 3 semaines, je vois débarquer les services sociaux départementaux qui ont reçu l'information préoccupante. Seulement l'ennui avec les services sociaux, c'est que je crois qu'ils connaissent encore moins bien l'autisme que les médecins. Les services sociaux, quand ils interviennent, d'abord c'est des assistantes sociales, et elles vont venir avec leur formation, elle leur fournit un guide. Et le guide, il a des points d'appel. Il y a 42 points d'appel de maltraitance qui leur permettent de repérer un enfant maltraité. Voilà. Un enfant maltraité, c'est mutique. Un enfant maltraité, ça peut se ratatiner dans un coin, ça peut s'automutiler, ça peut faire des crises d'angoisse. Il y a 24 points, en fait, qui se chevauchent entre les signes d'appel de maltraitance et l'autisme. Les services sociaux visitent la maison, vérifient ses carnets de vaccination, et puis vont voir l'enfant. Elle discute avec Rémi, il répond pas, il est mutique. Elle discute avec Rémi, tout ce qu'il arrive à faire, c'est de leur parler de ses intérêts restreints. Ah ah ! Et en plus, il sort d'hospitalisation, il a été hospitalisé pour de graves crises d'angoisse. Dans leur tête, il est maltraité. La maltraitance, elles connaissent, l'autisme, elles ne connaissent pas. Il est maltraité pourquoi ? Ça va être ça la question. Et donc, je leur dis, il est autiste, c'est entendu, c'est la faute de la mère. Et à partir de là, Ce qui va se passer, c'est que leurs investigations, c'est pas une enquête au sens où jamais on ne cherche la vérité. C'est un gigantesque biais de confirmation. C'est-à-dire qu'elles viennent avec une certitude. Et ce qu'elles viennent, c'est pas chercher la vérité. Ce qu'elles viennent chercher, c'est les preuves qu'elles ont raison. Les services sociaux disent que cet enfant est vraiment dans un conflit de loyauté dramatique à l'initiative de la mère et envisage de le placer. Je ne le sais même pas. Je l'ai appris après en lisant le dossier au judiciaire, au tribunal. Et puis finalement, ils décident de se dessaisir et ils écrivent, la supérieure de l'assistante sociale écrit, et elle me dit « on va vous signaler au judiciaire parce que cet enfant est en danger et parce que nous ne sommes pas compétents ». Mais pourquoi ils écrivent un rapport à charge alors qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils n'ont rien compris? Ils vont produire un document sur lequel tout le reste va s'appuyer. Et là, ça devient ce qu'on appelle un signalement, un vrai signalement au judiciaire. On va recevoir une ordonnance d'une juge qui dit « Votre enfant est en danger », mais on ne sait pas pourquoi. La juge, on ne l'a jamais vue et elle nous envoie une enquête, une investigation judiciaire qu'on ne peut pas refuser et qui est confiée à un organisme privé. Quand l'enquête arrive, l'enfant va bien, il est sorti de sa dépression, il n'est plus suicidaire, il a rattrapé son retard scolaire, la prise en charge fonctionne, et là on va voir arriver une association privée payée pour faire ce que le ministère de la Justice ne fait plus lui-même, c'est-à-dire aller faire des enquêtes judiciaires chez les gens, quoi. Les services sociaux avaient écrit « on se dessaisit parce qu'on n'est pas compétent, nous, au département, et vous avez besoin de compétences plus larges ». C'est l'assistante sociale des services sociaux qui écrit ça. Compétences plus larges, bah, ça va pas faire un pli, on va avoir arrivé une nouvelle assistante sociale, cette fois-ci privée, et spécialisée dans la maltraitance. Elle va visiter la maison, elle va vérifier les carnets de vaccination. Cette dame-là, on lui explique pendant 6 heures que le gosse est autiste. Maintenant, on a un gros dossier médical, on a un gros dossier scolaire, ça tient la route, quoi. Il est pris en charge par un excellent psychologue spécialisé, dont le travail est de rétablir les contacts avec son père. Et là, pour l'instant, il commence à revoir son père. Par petites touches, le psychologue lui explique ce qu'il a mal compris dans les comportements de son père, de façon à décoder, de façon à apaiser l'angoisse. Rémi se comprend mieux, se connaît mieux. Ça y est, les contacts avec son père reprennent. L'assistante sociale m'appelle quelques jours après en me disant « J'ai téléphoné à la juge, elle va vous convoquer en urgence ». Et en effet, on est convoqué pour une audience. Alors je téléphone au greffe du tribunal et je dis « Madame, je sais toujours pas ce qu'on me reproche à ce stade, j'ai toujours pas vu le dossier ». La greffière me répond « C'est normal, de toute façon on manque de personnel, tout ça, tout ça. Très probablement le rapport arrivera le jour même, vous savez quoi, vous avez qu'à venir un quart d'heure avant l'audience ». Il commence à être très inquiet, les spécialistes de l'autisme qui suit Rémi, parce qu'ils voient que là, ça dérape quand même sérieusement. Et donc, ils écrivent une lettre à la juge pour que Rémi soit entendu seul, déjà pas en présence de son père, puisque c'est ça qui l'angoisse, et puis surtout en présence de son psychologue spécialisé autisme. Et le lendemain, c'est mon tour. C'est l'audience des parents. Donc, un quart d'heure avant, on peut consulter le dossier, et on rentre chez la juge. Je risque le placement à ce moment précis. Ça veut dire qu'elle nous met sous tutelle judiciaire. Ça veut dire qu'elle nous met sous, ils appellent ça, assistance éducative en milieu ouvert, avec ordre pour Rémi de revoir son père coûte que coûte. Maître Janois se lève pour plaider. Elle lui dit « Maître Janois, je vous interdis de me parler d'autisme ». Et donc on est sorti avec une mise sous assistance éducative en milieu ouvert pour 1 an. Voilà. C'est une faillite totale, collective, énorme, de tout un système. Et c'est une zone de non-droit. Là, que ce soit Rémi ou moi, on a la sensation d'avoir été condamné, pas pour ce qu'on avait fait, puisqu'on n'a rien fait de mal, mais pour ce qu'on était. Rémi, il a été nié dans son identité, quoi. La juge, elle l'empêche d'être autiste, elle lui interdit d'être autiste, elle lui interdit d'être ce qu'il est. Moi, j'ai été traînée dans la boue parce que je suis mère d'un enfant autiste. Il y a eu un rapport d'Autisme France en 2015. Ça représente le quotidien de centaines, voire de milliers de familles. On vit tous sous la terreur, en fait. Et ce rapport, il est parvenu aux politiques. Tout le monde s'en fout.
suis Anne-Marie, j'ai deux enfants, Félix et Martin. Félix va bientôt avoir 20 ans et Martin a 16 ans et demi. Leur particularité à tous les deux, c'est qu'ils ont un degré différent d'autisme Asperger. L'un, Félix, est affecté au niveau des sens et Martin, il est très affecté au niveau des interactions sociales, tout ce qui est expression également verbale. Donc c'est des enfants qui avaient vraiment des spécificités, mais qui, moi, ne me dérangeaient pas outre mesure. Là où ça a commencé à dérangeant, c'est quand c'est des enfants qui ont été victimisés par du harcèlement. Chez Martin, ça a été vraiment au collège, suite à des propos inquiétants, genre « je préfère mourir plutôt que de retourner au collège ». Là, je l'ai emmené aux urgences et là, il a vu une psychiatre qui a dépisté d'abord un harcèlement. On a mis en place déjà un temps scolaire partiel, adapté. Et l'été suivant, là, le diagnostic a été posé. Donc, c'était en été 2014. Martin avait 11 ans. Jusqu'en troisième, il a été en CNED total, c'est-à-dire une éducation à distance à laquelle il réussissait, mais qui le privait de tout contact avec ses pairs. Donc, on a souhaité vraiment qu'il puisse reprendre une scolarité ordinaire pour pouvoir renouer avec ses pairs. Or, l'année de seconde, ça coïncide aussi pour lui avec le début de sa puberté, quelque chose qu'il a extrêmement mal vécu, au point qu'il ne voulait plus parler du tout, parce qu'il était gêné par sa voix qui muait. En septembre 2017, quand il a commencé son année de seconde, j'avais fait la demande auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour qu'il ait une AVS, une assistante de vie, et elle n'était pas là à la rentrée. Dès fin septembre, il commençait à montrer des signes inquiétants de difficulté à aller au lycée, parce que ça se manifeste par une certaine paralysie, hein, c'est-à-dire qu'il voudrait y aller, il est prêt à y aller, mais il n'arrive pas à y aller. Il y a eu un petit épisode où il s'est cru enfermé dans les toilettes et il a cru que c'était le harcèlement qui recommençait. Et à partir de là, on l'a perdu. Dès que j'ai vu ces signes-là, j'ai alerté toutes les personnes possibles pour qu'on lui vienne en aide le plus rapidement possible, qu'il n'y ait pas d'écrochage. On a tenu et l'AVS est arrivée après les vacances de la Toussaint. Ça a été compliqué pour lui de l'accepter, il ne comprenait pas son rôle et surtout il ne voulait pas être stigmatisé, il ne voulait pas qu'on remarque qu'il était différent, alors qu'on lui avait dit déjà t'es à temps partiel. Donc les autres se doutent certainement bien que tu as des besoins différents. Mais Martin, pour lui, c'était important d'aller comme tout le monde. Et il a toujours eu cette attitude de faire bonne figure. Ça lui demande énormément d'énergie. Donc, ce qui devait arriver, arriva. Au mois de novembre, il était complètement HS. Il n'arrivait plus à aller en cours et il a décroché. En décembre, j'étais catastrophée. J'ai repris contact avec le CESAD, donc service de soins spécialisés à domicile, sur la liste d'attente duquel il était depuis un an et demi, en leur disant « s'il vous plaît, cette année j'ai encore plus besoin de vous parce que ça va de plus en plus mal ». Et là, le CESAD m'a recontacté début décembre en me disant « c'est bon, on va avoir une place ». Donc là, j'ai respiré, je me suis dit « chouette, enfin de l'aide, enfin des gens spécialisés qui vont avoir les réponses, qui vont pouvoir prendre soin de lui ». Et en janvier, on a donc eu notre premier rendez-vous. Et là, ça se résume à 1h45 de soins par semaine. Et en plus, on a une période d'évaluation. C'est-à-dire que pendant 6-7 mois, mais on ne va pas vraiment travailler. Et ça, c'est de l'inertie pure. On espérait d'eux qu'ils apportent une aide réactive et rapide. Et en fait, ils n'en étaient pas capables. Et eux n'ont pas eu l'honnêteté de reconnaître qu'on aurait dû être orienté vers d'autres personnes. Pour se défausser, ils vont nous dire on comprend qu'on n'arrive pas à faire face à vos besoins. Alors, on va vous proposer une solution, notamment pour avoir la veille que vous demandez. Il faut qu'on fasse une IP. Ah, c'est quoi une IP? Une IP, c'est une information préoccupante. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un moyen juste pour que vous obteniez l'aide dont vous avez besoin. Le CESAD a rédigé une IP au mois d'avril. Alors l'IP, donc, ça met en scène ce qu'on appelle la cellule de recueil d'informations préoccupantes, donc la protection de l'enfance. Et la protection de l'enfance, une fois qu'elle a été saisie, elle intervient sous forme d'une enquête sociale. Nous avons eu 6 rendez-vous qui se sont étalés du mois de mai à fin août. Et nous, qui étions particulièrement bien disposés et bienveillants à leur égard, nous nous sommes ouverts pleinement sur les doutes qu'on peut avoir quand on est parent d'un enfant qui se retrouve en grande difficulté, pour lequel on est inquiet. On pensait être constructif, aider à les aider à comprendre la situation pour qu'ils nous aident mieux. Ils nous ont proposé une aide éducative à domicile en nous disant « elle ne sera pas formée non plus, parce qu'on n'est pas formé ». Et il fallait leur écrire une lettre de motivation pour bénéficier de cette aide éducative à domicile. Et ce qu'on a fait, au contraire, c'est qu'on leur a écrit une lettre motivée de refus, en leur expliquant, étant donné que ce que vous nous proposez, c'est quelqu'un qui n'est pas formé à l'autisme, ça n'est d'aucun intérêt. Automatiquement, une fois que vous refusez la proposition de la protection de l'enfance, vous faites l'objet d'un signalement judiciaire. Moi, j'ai vraiment disjoncté. Et je me suis dit, c'est la fin du monde. On nous punit pour avoir eu l'intelligence de demander de l'aide. Si on se tait, au moins on protège notre famille. Là-dessus, étant donné le contenu de ce qu'avait dit l'éducatrice spécialisée quand elle nous a reçus, où elle avait même évoqué des mesures d'éloignement de notre enfant, c'est-à-dire le retirer de notre famille, le mettre soit en famille d'accueil thérapeutique, soit en hôpital psychiatrique, j'ai pris une avocate et j'ai pris l'avocate réputée pour défendre les familles d'autistes. Alors oui, Étienne, tu veux dire quelque chose ?
Moi, je suis le papa des deux enfants en question.
Le rapport ?
Ah oui, alors en plus, il y a une analyse, une présentation qui est faite de notre domicile qui semble complètement farfelue. On nous dit que la maison n'est pas accueillante, que le jardin n'est pas entretenu. Enfin, des notions qui sont complètement subjectives. Oui, c'est vrai, on ne taille pas les buis et la pelouse ne fait pas 2 cm de manière égale.
Alors oui, il y a aussi le maternage humiliant. Quand je dis, en sortant du bureau, « mets ta casquette à mon fils », alors je le materne de manière humiliante. Je le materne aussi si je lui donne du sirop quand il tousse. C'est marqué dans le dossier. Je perçois ça comme de la haine gratuite en lisant le rapport que la protection de l'enfance a rédigé sur nous. Je ne comprends pas pourquoi on dit des horreurs pareilles, pourquoi on se sent obligé de rédiger des horreurs pareilles. L'audience s'est très bien passée parce qu'on a eu une juge qui était attentive à ce qu'on lui disait, qui d'emblée nous a parlé d'un automatisme, c'est-à-dire que si on se trouvait devant elle, c'est parce qu'il y avait eu ce refus d'AED. L'AED, c'est l'aide éducative à domicile, c'est donc ce qui nous a été proposé à l'entretien de restitution par la protection de l'enfance. La juge a décidé de classer le dossier et de clôturer, sauf si la partie adverse, la protection de l'enfance, fait appel. Mais la partie adverse n'était même pas présente lors de l'audience et la partie adverse avait écrit un rapport truffé d'erreurs. Je pense que c'est souvent une histoire de personne. Nous avons eu de la chance. Au retour à post-CESAD, vous dites « d'accord, j'ai pas d'aide ». Mais je m'en fiche, c'est pas grave, j'ai retrouvé ma liberté. Et donc, j'ai repris contact avec les thérapeutes d'avant le CESAD. On est en phase. Et Martin, sa vie, elle est rythmée tous les jours de la semaine. Il a une interaction avec une tierce personne. Les parents d'enfants autistes et les parents d'enfants différents, d'une manière générale, sont beaucoup plus sujets aux embêtements que les autres. Ça m'a énormément inquiétée sur le système de justice. Je trouve que ce qui a été le plus difficile, c'est de se sentir seul. Nous, on est des gens honnêtes, On n'a jamais eu de soucis juridiques et on s'est retrouvé au tribunal. Moi, j'ai eu ce sentiment d'être salie par ces gens.
C'était Autisme des parents jugés coupables, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Peggy Leroy, à Sophie Janois, à Rémi, à Laurent, à Étienne et à Edith Roy. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé-Marie Roulier, notre stagiaire. You take the big one. I'll take his brother. Let's get this over with. 'Cause I'm late for work. Do you remember when we were young? Swing sets, the costumes, the dirt and the sun. I sold all my baseball cards to buy me some clothes. That's how it goes, that's how it goes, that's how it goes. And I keep on thinking it's time to move on. Move out to the city so huge. Meet me some people. Seems these old hills, they keep on calling. The clouds round you talk. Man, I've been listening. Sold all these clothes to buy me this land. I'm sort of happy most of the time, most of the time. Been riding lots of trains, the same ones as you. How come you get to talk to everybody just looking out my window?